Vous écoutez
RMC.
RMC.
Pour le fan fort.
Vous savez, quand vous prenez des buts, vous ne les prenez pas sur la largeur. Hein.
Les acteurs, ce sont les joueurs, c'est eux après sur le terrain. Il y a besoin qu'il y ait une ébullition aussi en interne.
Je l'attendais. Et que ça vienne d'RMC, je n'en doutais pas.
Si je réussis, bah dans les bacs, tu auras mon single. Ah. En attendant, Gilbert, fais-moi plaisir, mets-moi dans le jingle.
Jusqu'à minuit 30, l'after foot. Intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Bonjour à tous, l'After continue jusqu'à minuit et demi sur RMC, sur la chaîne YouTube de l'After, After-Foot, vous le savez, l'After par les podcasts de France. L'After, votre espace de liberté, à vous tous les supporters, le 32-16 est ouvert, on est là jusqu'à minuit et demi comme tous les soirs de l'Euro, avec Daniel Riolo, salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Et avec Lionel Charbonnier.
Bonsoir à tous.
Salut Lionel.
Ça faisait longtemps que je...
Ah oui, mais toi t'es l'homme du vendredi.
Euro, grosse compète, t'es là quoi.
Voilà. Belle ouverture, mais j'ai pas vu que t'avais mettre ta petite coupe du monde sur le béret. Oh la classe.
Ah ouais, t'as vu?
Ah ouais, il a son béret, sa petite coupe du monde.
Bon, sort pas souvent, ni l'un ni l'autre.
Ah, ça me permet quand même de, en ouverture de cet after qui est le premier de l'Euro, de vous rappeler que donc ce sera minuit et demi tous les soirs pendant l'Euro, les soirs de match, et libre antenne systématiquement les soirs de match aussi. Hein. Donc tout à l'heure il y aura la libre antenne, Bogie en grande, Oussem bien sûr.
D'accord.
Oussem Loussaïef tous les soirs avec vous, le 32-16 est ouvert.
Ils vont me tenir compagnie quand je vais rentrer sur la route.
Voilà, exactement.
Ils me font rire, ils sont bons.
C'est pour ça qu'ils sont là. Hein.
Ouais.
C'est le Real Madrid ici.
Non, mais je suis étonné parce qu'à la base, quand tu les vois, c'est pas des mecs qui te font.
Ah oui, ça, c'est pas faux.
Faut pas rêver comme ça. D'abord. Faut pas rêver autant que les Allemands ce soir.
Dans un instant, on va justement accueillir Paulo Breitner, Julien Laurence pour débriefer ce premier match. On va parler de l'équipe de France. On va également parler un peu mercato parce qu'il n'y a pas que l'actu de l'Euro, évidemment, dans le monde du foot. Mais d'abord, comme de coutume, le 32-16 est ouvert. Direct Studio vous attend, notre messagerie. Et puis, vous le savez, même au premier tour de l'Euro, l'essentiel, c'est les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Ouais.
Daniel, qu'est-ce que tu retiens de ce match d'ouverture?
Ce soir, honnêtement, on aurait pu s'en passer parce que il n'y a pas réellement de débat. Il y a juste des constats, du plaisir qu'on a pris. Donc les débuts de rêve de l'Allemagne, ça serait le point 1. Une équipe type qui se dégage. De toute façon, Polo nous avait dit que depuis 3-4 matchs maintenant, elle était là, cette équipe type. Et bah écoute, quand ça démarre comme ça, je pense que Nagelsmann va pas changer. On sait qui est le 11, on sait qui sont les entrants et plus ou moins à quel moment ils vont entrer. Voilà, on a ce soir, voilà, c'est parti, l'équipe d'Allemagne. On savait qu'elle était... arrangée parmi les favoris de cette compétition, elle est là et on a tout vu dès ce soir. Maintenant, l'adversité sera plus forte de match en match et il faudra voir comment elle réagit par rapport à ça.
Ça fait 3 points, ça?
Largement.
C'est un peu fouillis.
Faudra parler de Toni Kroos parce que. Faudra parler de Toni Kroos parce que, évidemment, il a été extraordinaire. C'est un des joueurs que je kiffe le plus. Mais je me dis, dans un gros match, est-ce que tactiquement, c'est vraiment ce que je veux voir, est-ce que tactiquement, ce serait pas presque assez facile d'aller le prendre, quoi? Alors on va dire, ouais, au Real, si c'était aussi simple, on aurait pris et tout. Je veux dire, mais il est tellement identifié comme première rampe de lancement, je me dis que si tu fous un gars dessus, ça doit un peu emmerder le jeu de l'Allemagne. Mais bon, c'est une réflexion que je me faisais comme ça en regardant la rencontre.
On en pourra détailler ça tout à l'heure. Et Lionel?
Bah, comme Daniel, pour le premier point, c'est l'entame rêvée pour les Allemands. On pouvait pas rêver mieux. Mon point numéro 2, malgré la piteuse copie des Écossais, l'Allemagne s'est quand même rendu la tâche facile et ça sera mon deuxième point, surtout parce que jusqu'à 2-0, ils ont 100% de réussite, alors que c'était un point faible jusqu'à maintenant. Ils se créaient beaucoup d'occasions et ils n'arrivaient pas à marquer. Là, il y a 2 frappes cadrées, 2 buts. Je compte pas l'arrêt du gardien qui le prend dans la tête parce qu'il était hors jeu, mais c'est du 100% de réussite alors que ça leur faisait défaut. C'était un point à améliorer. Ils l'ont amélioré. Et puis le point numéro 3, c'est l'Écosse. Je suis déçu des Écossais. Je suis bien obligé de parler de l'Écosse. Tout simplement, ils ont même marqué sans avoir cadré un seul tir. Dans les stats. Si tu regardes les stats, il n'y a aucun tir cadré et ils marquent un but.
On en parlera avec Julien Laurence tout à l'heure.
Très déçu de l'Écosse.
Bon.
Et son sélectionneur aussi, j'ai pas aimé du tout de rester à 5 comme ça, alors que Daniel l'a dit, si tu vas chercher un peu Kroos, si tu vas jouer un peu plus dans le milieu, tu vas les embêter un peu plus haut plutôt que de revenir sur les pieds de ton gardien. J'aurais préféré un 4-4-1 plutôt que jouer à 5
3-1.
Tous les cas, c'est pas,
j'ai pas compris.
C'est pas une équipe de pipe, hein. Une équipe de pipe. Dans les qualifs, ils ont fait des bons matchs.
Bien sûr.
Non, là, ils sont très à côté, là. De vraie envie, de détermination, de, en gros, équipe moins forte sur le papier, mais qui n'abdique jamais. Là, je sais pas, ce sont également bon, des
L'Allemagne est allée chercher sa victoire. Hein,
est-ce qu'il faut pas dire que c'est l'Allemagne qui a complètement étouffé l'Écosse dès le début de la rencontre en les laissant pas ressortir? Ils faisaient un pressing carrément de l'autre côté du terrain. C'était impressionnant. Il y avait tout. Il y avait le pressing, il y avait le contre-pressing, il y avait la récupération rapide. Ça jouait vite. Il y a de la technique dans cette équipe. Il y a pas un poste où t'as pas un mec qui se fait jouer au ballon. C'est cette équipe, je sais pas quelle est sa force mentale. Mais si elle répond en cas de coup dur, si elle sait être patiente, si honnêtement c'est une des meilleures de l'Euro sans problème, ouais, même non. Techniquement, par exemple, juste techniquement, ils nous fichent une leçon à nous en termes de qualité individuelle. Ils ont des joueurs beaucoup plus techniques que nous. Si tu fais
dans les petits espaces, alors, ils ont été très forts.
Que toi,
ils
tu puisses les contrer, j'en sais rien, parce que tu vas être plus fort athlétiquement, parce que tactiquement tu seras
plus près. Tu seras plus près quand même exactement, de ton adversaire. Ils auront moins le temps de contrôler.
Il y a plein de moyens de prendre le dessus quand. Mais genre, simplement techniquement dans le maniement du ballon, le mouvement, ce que propose cette équipe, c'est top niveau, vraiment.
Et pas que les 11, parce qu'en plus Nagelsmann a été bien inspiré. Il fait rentrer, c'est un groupe qui répond aussi à Nagelsmann, parce que tous ceux qui rentrent marquent pratiquement. Füllkrug en marque 2, le dernier, qu'est-ce qui marque le dernier? C'est Chan qui était remplaçant, qui marque et qui voilà, tout le monde a joué. Nagelsmann a bien et senti les coups.
Tout le monde a joué des mecs, tellement tout le monde a bien joué. Moussi a fait un match
déçu
énorme.
De Sané, de l'entrée de Sané, j'ai trouvé oui. Moi et j'ai Ali, c'est pour moi c'est la moins bonne entrée. Il l'a joué personnel. Il y a des moments, bon déjà il est mal rentré avec sa première occasion où il va donner le ballon du gauche.
C'était
pas beau. Ouais. Et puis après il a oublié ses petits copains et tout. Enfin j'ai trouvé Sané sur le peu de temps de jeu. Bien en dessous de tous ces petits copains.
Alors, on va faire l'évaluation tout à l'heure, bien sûr.
Il a mis qu'un seul but, hein. L'autre a été refusé.
Il a été refusé.
Le 32-16 est ouvert si vous êtes supporter de l'Allemagne ou de l'Écosse, ça peut arriver. Donc, appelez-nous si, par exemple, vous êtes expatrié en Écosse, par exemple, comme Lionel l'a été un temps, puisque Lionel,
j'ai adoré les Écossais.
A brillé aux Glasgow Rangers.
Tu sais qu'ils m'ont mis dans le top 5, hein.
Top 5 de quoi?
Des étrangers préférés. J'ai reçu ça, là, il faut que j'aille les voir.
Ah ouais?
Ouais. Ah mais j'étais un dieu là-bas. Plus qu'en France, hein.
Bravo Lionel.
Ah oui.
Bah non mais Auxerre, t'es que dans le top 5.
Je sais pas.
Au moins des gardiens.
Ah bah des gardiens, oui, quand même. Gardiens, oui, quand même. Oui, quand même.
Gardien Auxerre, tu jouais 15 ans, donc en même temps. Il y en a un autre qui est un dieu vivant en Allemagne, surtout sur un axe Lübeck-Leipzig, c'est Paulo Breitner. Salut Paulo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Salut Polo.
Polo, quel début en fanfare.
On peut relancer le débat d'un Euro 24 si vous voulez. Hein. Mais
oh le rabat-joie, il a sa sélection qui fait un match magnifique.
Ouais, ça c'est Polo ça.
Non mais c'est vrai en plus. Et je constate que les Allemands ont un nouveau record lors d'un Euro, c'est-à-dire de mettre la plus grosse raclée lors d'un match.
Des matchs d'ouverture.
Ouais, c'était intéressant parce qu'en fait ça a l'air de rien, mais jamais l'Allemagne n'avait mis une volée à l'Écosse. C'était souvent des matchs remportés par l'Allemagne, mais très compliqués. Ce que je constate ce soir, c'est que cette équipe, qui est encore très jeune, parce que c'est l'équipe qui a trouvé Nagelsmann suite à la victoire contre l'équipe de France, hein, ne l'oublions pas, ce 11, ressemble beaucoup à Leverkusen en fait. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup latéralement, sur les côtés, avec Mittelstädt, Kimmich, etc. Et souvent, ça finit dans l'axe.
Mais quand tu dis très jeune, Polo, c'est quand même une équipe où t'as Rüdiger, Neuer, Kimmich.
Non, mais très jeune, le fait d'être ensemble. Dans le fait d'avoir ce 11 qui joue ensemble.
Ah, pardon, j'avais pas compris.
Oui, parce que tu peux rien dire qu'il y a quand même 6 titulaires qui étaient déjà là lors de l'Euro 2021, par exemple. Mais les jeunes avec Moussiala, Wirtz et tout ça, ça fait pas longtemps qu'ils jouent tous ensemble. D'ailleurs, l'une des grandes questions, c'est savoir si ce duo technique allait fonctionner ensemble, Moussiala et Florian Wirtz. Ce qui m'intéresse, c'est que, alors, il y a plusieurs choses. Ils se sont rendus le match facile.
Ouais.
Ils sont physiquement présents, parce que quand tu rencontres les équipes du Royaume-Uni en général, t'as intérêt d'être là physiquement. Donc tout ça me plaît énormément. Gundogan, qui est très critiqué, a quand même fait sur le but de Moussiala, rappelé une passe, l'avant-dernière passe extraordinaire à Havertz.
Absolument.
Qui est intéressant. Et ce que je constate aussi, c'est que...
Il a été bon aussi entre les lignes, hein.
Ouais, tout à fait. Mais si tu veux, moi, j'ai une théorie. Je pense que Nagelsmann a son 11 de départ, celui qu'on a vu aujourd'hui, mais ça va marcher contre les grosses équipes. Je suis pas persuadé que ce soit extraordinaire ou que ce n'était pas extraordinaire jusqu'à maintenant contre les équipes plus faibles. D'où le cas de Gundogan qui me semble intéressant.
Ah ouais, mais enfin là, ça contredit ce que tu dis, là, ce qui s'est passé.
Oui, non, mais c'est la première fois qu'on voit ça, en fait.
Ah, d'accord.
C'est ça qui est intéressant.
Toi, tu penses que là, le 11, là, comme le disait Daniel dans les trois points, on va voir cette équipe systématique. Nagelsmann, c'est pas le genre, pas un monsieur surprise.
Ça sera pas un monsieur surprise. D'ailleurs, il a beaucoup appris de ses propres erreurs, d'après ce qu'il se dit en Allemagne, le fait de toujours chercher des nouveautés un peu partout, etc. Il veut un style de jeu assez,
entre guillemets. C'est vrai que lui aussi, il appartient à l'école des Jiffy. Ouais.
Il cherche toujours des nouveautés, etc. Et d'après ce qui sort d'Allemagne, c'est qu'il a cherché un jeu entre guillemets assez basique, évidemment très technique, parce que quand t'as Toni Kroos, Gundogan,
autant en profiter sur le terrain, qualité pour le voir.
Exactement, et pas forcément flamboyant, systématiquement flamboyant. Mais ce que je constate aussi, c'est qu'il a un banc, et ce risque de concurrencer certains titulaires, parce que Füllkrug marque des points ce soir. C'est pas le même profil que Kai Havertz. Emre Can qui sort du Diablo Vauvert, qui vient du Diablo Vauvert, puisque Pavlovic, le jeune, est retourné au Bayern, a perdu sa sélection. Bah finalement, il marque le but. Tu as un Leroy Sané qui a tout raté. Il a son problème de pubalgie.
Oui, en fait, il est passé à côté, hein.
Non, mais il peut pas s'entraîner. Il a un problème de pubalgie. Il peut rien faire. Il est sous infiltration et tout, quoi.
Et pourquoi il le fait rentrer alors?
Ben parce que en fait il le sort et il le met dans l'équipe comme ça. Leroy Sané, c'est pareil, il marque le premier but, c'est pas du tout le même match, là, il rate tout et donc on a retrouvé le mauvais Sané. J'ai aimé le fait qu'il sorte Andrić à la mi-temps.
Oui, parce qu'il avait un carton, c'était intelligent.
Exactement, c'est-à-dire normal, en fait
normal, mais voilà, c'est bien de le faire.
C'est ils ont fait exploser les Écossais en première mi-temps. Et puis il y a autre chose, je sais pas si vous l'avez vu, c'est l'évolution physique de Moussiala. Il a parlé en conférence de presse du fait que Bambi, son surnom, était fini, qu'il maintenant il voulait prendre des responsabilités.
Ah, on a le droit d'appeler quelqu'un Bambi, parce qu'en France ça fait un scandale. En Allemagne, je connais l'histoire. Moussiala a été qualifié de Bambi quand il était jeune. Il a 21 ans, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Voilà, il est titulaire en équipe d'Allemagne avec le Bayern. On est tous d'accord pour dire que c'est un joueur de classe internationale. Et c'est pas honteux de donner ce surnom. Et d'ailleurs, mieux, tu sais, tu me confirmes si je me gourre pas, mais lui, il a dit, bon, ben, maintenant ça suffit, on m'appelle plus Bambi parce que bah, je suis titulaire au Bayern, ouais, je suis titulaire en sélection soir, et j'ai envie de montrer que c'est terminé. Voilà, il n'y a pas eu un drame avec
et
ça.
Et ce
quoi.
Que j'ai aimé ce soir, dans sa conférence de presse où il a dit d'ailleurs que Bambi c'est fini, je veux prendre des responsabilités, je vois ce soir la fin d'un adolescent, corporellement parlant, bien entendu, physiquement parlant. Et quand je vois les muscles qu'il a pris sur les cuisses et tout ça, rappelez-vous, il était fin comme une allumette, il y a quelque chose qui me plaît. Et qu'on voit voir évoluer dans les prochaines années, qui m'intéresse beaucoup. Mais voilà, en fait, bon, le problème, c'est que ce soir, il y avait personne en face, puisqu'ils se font expulser 3-0 à la mi-temps, après c'est fini.
Voilà. Ce que j'ai aimé aussi, Polo, t'en as parlé un petit peu dans le jeu, c'est ce jeu dans les petits espaces, ce jeu où ils attirent l'adversaire sur un côté aussi, ils sont capables de, notamment le premier but, où ils aspirent sur le côté gauche, leur côté gauche, le côté droit écossais,
l'équipe adverse.
Et la transversale, donc une alternance aussi d'un jeu long avec c'est Toni Kroos qui fait cette
d'ailleurs,
transversale.
D'ailleurs, on est dans une défense à trois en fait. Hein. On n'est pas. Il y a une telle domination allemande qui d'ailleurs, c'est un jeu de possession. Paraît-il que les Allemands veulent plus parler de la possession, etc. Parce que
là, à un moment, c'est à 68 hein, dans les 20 premières minutes.
C'est ça, et c'est exactement. Et en fait, c'est intéressant parce que Toni Kroos recule en position de quarterback. Ça pourrait être Andrić aussi qui jouait ce positionnement à Leverkusen. Et vous avez Mittelstädt et Kimmich qui sont très hauts. À voir comment ça fonctionne contre des équipes beaucoup plus fortes.
Ouais.
Et moi, je me méfie beaucoup du match contre la Hongrie, qui est une équipe qui joue bloc bas. Et qui joue en contre.
Attention,
qui,
la Hongrie.
Sous Rossi, l'Italien a fait des choses que je trouve assez extraordinaires.
Beaucoup plus agressif aussi, la Hongrie, parce que là, je sais même pas s'ils ont fait un tacle comme il faut, les Écossais. Le seul tacle qu'ils ont fait, il y a eu pénalty.
Ils ont niqué la cheville de Gundogan.
Mais quand même, l'Allemagne a fait de belles choses. Ils sont allés chercher leur victoire. Ils les ont bougés. Ils ont jamais laissé espérer ces Écossais. Et ça, c'est au mérite de l'Allemagne.
Exactement. Alors, moi, je m'attendais pas à ça, moi.
Mais bon, non. Première pub, et ensuite on aura Mustapha qui est supporter de l'Allemagne qui va revenir sur le match. On reviendra également sur l'Écosse, bien sûr, Julien Laurence avec nous tout à l'heure, plus l'équipe de France au programme. Mais vous le savez, pendant l'Euro, chaque jour sur RMC, on vous envoie en Allemagne pour assister à tous les matchs de l'équipe de France. Ce soir, on vous offre le match France-Pologne, match du 25 juin prochain. Si vous voulez participer, c'est à Dortmund. Hein. Donc le RMC vous régale, avion, hôtel, les places au stade. Il suffit d'être attentif dans l'after ce soir et d'attendre le signal qui est celui-ci. Ah, c'est le coq qui est dans le jardin Lionel Charbonnier.
Non, non, j'ai pas de ça.
Ah bon ? Non. T'as des chevaux, mais t'as pas de coq ?
Non. T'as fou le bordel, ça.
Oh. Ah bon ?
Ah, ça chante tout le temps.
Ah, c'est pour ça ? Tu voulais être d'accord ?
Déjà, j'ai Anna qui me gueule tout le temps.
Bon, bah, dès que vous entendez le coq, si vous voulez gagner les places, vous envoyez euro par SMS au 732-16. Euro par SMS au 732-16. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. Intégral euro.
Gilbert Bribois.
23h16, ils sont là, Daniel Riolo, Lionel Charbonnier, Paulo Breitner. Alors on va un peu chambouler l'ordre de nos débats là. Je voulais qu'on continue sur l'Allemagne, mais Julien Laurence est avec nous. Et après, il a quelques obligations, parce que vu qu'il est aussi maître de cérémonie, on le sait depuis hier soir, dans son palace à Berlin. Ah oui. Salut Julien.
Il organise le rooftop.
Salut Gilbert. Ah ouais, il a un truc. T'as un truc salut en rooftop tout à l'heure ?
Tout à fait, on y va.
T'as vu l'hôtel de Julien, Lionel ?
Non.
Bon, tu regarderas pendant la pub, je te montrerai.
Ouais.
Regarde comment il régale. Il croque.
Je t'invite, mon yo, je t'invite.
Bah ouais.
Je te mets bien.
Avec plaisir.
Par contre, là, c'était pas une partie de plaisir ce soir.
Non, mais les Écossais, là, tu penses qu'ils vont prendre trois branlées ou. Est-ce que t'étais surpris ? Je rappelle quand même que dans la phase de qualif, ils ont battu l'Espagne. Hein.
À domicile.
Ouais. Alors, ils ont battu l'Espagne dans un.
2-0.
Dans une configuration un peu spéciale. Ils marquent très tôt, après, ils défendent très bien, ce qui est vrai, il faut le reconnaître. Ils marquent
contrairement ce soir.
Oui, mais de toute façon, pour ceux qui ont écouté l'avant-match avec Nico et coach Courbis, on l'avait dit aussi, c'est une équipe qui a ses qualités. Alors, elles sont limitées, bien sûr, notamment avec le ballon. On a vu ce soir, hein, même à 11 contre 11, ils font pas 3 passes contre une très bonne équipe. Ouais. Mais s'ils tiennent défensivement, si ça reste solide, s'ils n'ont pas trop d'espace, ça peut t'embêter. Ça peut embêter n'importe qui, finalement. Et comme je l'ai dit dans l'avant-match, en revanche, s'ils prennent un but dans les 15 premières minutes, ils vont exploser, ils vont en prendre 4. Mmh. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et c'est dommage parce que ce premier but, tu sais très bien que le ballon, il va avec la diagonale de Kroos, elle va trop miche là-bas. Mmh. Tu mets beaucoup de temps à faire bouger
naïf,
ton bloc. Mmh. Et après, mmh. t'as tout l'espace pour Wirtz. Personne marque Wirtz à l'entrée de la surface. À ce niveau-là, après 12 minutes de jeu, c'est scandaleux.
Surtout cette transversale, Juju, parce qu'ils sont quand même à 5 derrière et ils touchent un mec à la hauteur du 5e défenseur. Pendant le temps pendant la transversale, normalement, l'adversaire, enfin, celui qui était à gauche, il doit se retrouver en même temps que le receveur sur le côté droit. Je sais plus
Kimmich,
qui est-ce qui.
Tout à fait.
Sur Kimmich, ouais. Il doit être dessus.
Le problème, c'est
il dormait.
Bien sûr. Mais le truc, c'est que cette équipe-là, qui est déjà limitée à la base, si en plus, ce qu'elle sait bien faire habituellement, elle le fait pas bien dans un match comme ça, alors pour eux, c'est trop compliqué. À 11 contre 11, à 10 contre 11, c'est pareil. Ils marquent un but, ils ont une chance inouïe sur le but qu'ils marquent. Je sais même pas comment ça passe. Donc, Füllkrug, la dévie, ça passe contre les jambes de
tard. Totalement anecdotique, ce but. Hein.
C'est incroyable.
Ça, mais ça se trouve, mais, il va être important.
Mais de toute façon... Là où ils vont rester positifs en soi, bon déjà l'ambiance et les supporters, parce que les meilleurs écossais ce soir, ils sont dans les tribunes, hein. Ça c'est incroyable. Mais après, de toute façon, c'est pas ce soir qu'on les attendait. On savait très bien que ce soir, c'était très.
Mais la presta quand même, Julien. Enfin moi, je suis très déçu.
Oui, non, c'est sûr.
Très déçu de la presta. Je suis très déçu aussi de Clark, le sélectionneur. C'est-à-dire que à la mi-temps, je m'attendais à ce qu'il mette une défense à 4 et qu'il mette 4 milieux au lieu de rester à 5-3-1, qu'il mette un milieu pour aller les chercher, embêter Kroos quand même un petit peu plus. Rien du tout. Ils sont restés comme ça. Ils ont fait que reculer sur les pieds, sur les talons de Gunn là. Le gardien écossais, non, même les basiques.
Sincèrement, il ne va pas faire beaucoup plus, hein, Léo.
Mais là, défendre en avançant, il n'y a même pas les bases de la défense. Je les ai jamais vus comme ça.
Là, ils sont passés au travers. Ils sont passés au travers, et bon, ça, c'est sûr. Mais après, c'est vrai, c'est... quand ils ne font même pas ça bien, le reste, après, il n'y a rien qui suit finalement.
Bah, exactement.
Donc, c'est une équipe qui est limitée. Hein. Donc, on verra contre les Hongrois et les Suisses.
C'est une des moins bonnes générations, quand même, je trouve, cette équipe écossaise.
Ah, tu dis ça, mais c'est celle qui vient de se qualifier pour 2 euros d'affilée.
Leur habitude, c'est pas d'aller dans les compètes, hein, globalement.
Bah oui, ils n'étaient pas allés depuis 24 ans. Et ils n'ont jamais passé le premier tour non plus, hein, dans toute leur histoire.
Steve Clark, d'ailleurs, au final, il est sélectionneur de l'Écosse, mais il n'a pas non plus un CV de folie. Hein. Il était adjoint toute sa vie, en fait.
Adjoint de Mourinho, notamment.
Ouais. Mmh. Ouais, non, mais c'est sûr. Ça
Daniel connaît plus Christopher Clark. C'est une autre génération.
Alors celui-là, il fallait aller le chercher. Hein.
C'est sorti tout seul.
Et Lionel, il fait genre, je connais pas Christopher Clark. Bon, t'inquiète pas. Ouais, t'inquiète pas.
On se rend compte. Les Clarks que je connais, c'est ce que j'avais au pied quand j'allais à l'école.
Les Clarks. Hein.
Les Clarks.
Ouais, c'est pas pareil. Clarks. C'est pas genre, tu connais pas.
Tiens, on a Yacine qui est là. Salut Yacine.
Bonsoir messieurs.
Yacine, toi, t'as un petit goût pour l'Écosse. T'aimes bien l'Écosse.
Ouais, ce soir, j'en ai
pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Yacine?
Comment
t'aimes l'Écosse? Qu'est-ce qui se passe?
Ça sent le voyage et.
Ah oui, ouais, une amoureuse, t'as eu une amoureuse écossaise.
Ouais, je pense qu'il a eu une amoureuse
là. C'est juste les voyages, c'est juste l'histoire de ce pays, c'est juste les gens que j'ai rencontrés, que je côtoie là-bas, que j'ai pu rencontrer, c'est un truc particulier, c'est un peu impossible à décrire comme ça si on ne vit pas, mais voilà, mais c'est quelque chose qui se vit, et voilà, c'est vrai que c'est bizarre, mais voilà, mais c'est un truc qui marche, et voilà, donc ça fait plaisir de voir l'Écosse à l'Euro. Après, c'est sûr que le match de ce soir, voilà, ça laisse un goût amer pour cette nuit.
Bon, mais toi, tu penses que, du coup, tu suis l'équipe, Yacine, régulièrement quand même?
Ouais, j'ai savouré les phases de qualification où j'étais vraiment impressionné parce que comme vous l'avez évoqué, il y avait quand même un groupe assez intéressant avec la Norvège de Haaland et de Odegaard, même si c'est pas la grande Norvège. Il y avait cette victoire contre l'Espagne où voilà, on voyait quelque chose qui était plutôt bien quelques temps auparavant. En plus, il y avait la montée en Ligue des Nations en Ligue A, donc il y a quelque chose qu'a fait Steve Clark. Mais là, même si je m'attendais à une victoire de l'Allemagne, je m'attendais pas à une victoire comme ça en fait. J'avais vraiment vu des joueurs qui étaient transparents, des joueurs que j'attendais notamment comme McTominay, comme Robertson, comme Tierney, comme McGinn, comme Che Adams. Après voilà, le problème c'est Steve Clark et ses choix. Je ne comprends pas. Alors comme l'a dit la personne auparavant, oui, l'Écosse a des options limitées. Voilà, à la fiscalité, ils sont très limités. Mais si en plus tu rajoutes des erreurs.
Le scénario pour l'Écosse maintenant, Yacine, c'est un point contre la Suisse et gagner contre la Hongrie avec 4 points, t'es qualifié. Même peut-être avec 3 points, t'es qualifié comme meilleur 3ème. Hein. Faut rappeler que les meilleurs 3ème.
Meilleur 3ème, après, voilà, on sait qu'il y en aura d'autres qui voudront être meilleur 3ème. Et là, tu prends déjà 5 buts.
Meilleur 3ème, tu peux l'être que. Il faut quand même 3 points.
Je rappelle la formule de l'Euro.
3 points et pas avoir pris de valise. Grosso modo, c'est un peu cramé. Quoi.
Je rappelle la formule de l'Euro, c'est la fameuse table, là, vous savez, sur les meilleurs 3ème. Donc à chaque fois, c'est une usine à gaz sur les derniers jours pour savoir qui est le meilleur 3ème. Donc bon, vous aurez le temps de vous y faire, mais à chaque fois, c'est compliqué. Heureusement, je serai là, Daniel, pour t'expliquer.
Je me pose comme question, en fait, c'est les choix de Clark sont vraiment incompréhensibles. C'est-à-dire qu'à quel moment tu te dis, tu es en train de perdre et tu te dis, je ne vais pas faire rentrer Forrest. À quel moment tu mets Angus Gunn comme gardien alors que les deux autres sont peut-être meilleurs.
Vrai connaisseur de la sélection écossaise, là, quand même. Hein.
Même si ça vaut pas Greg Gordon, bon, malheureusement, qui est parti là il y a quelques temps, mais je pense que même Greg Gordon, à ses 41 ans, aurait fait une meilleure presta, je pense, que Angus Gunn.
Peut-être même Lionel.
Sur le premier but, je pense que Gunn, il peut l'arrêter. Hein. Lio, je ne sais pas ce que tu en penses.
Ouais. Sur le premier but, il se déplace. Il met trop de temps pour se déplacer. La balle, elle est à 2 mètres du poteau. Il est bout de doigt. C'est pas normal.
Il est clairement fautif pour moi sur le premier et le dernier but des Allemands. Après, voilà, moi, j'attends mieux contre la Hongrie et la Suisse.
Attention, la Hongrie. Hein.
Oui, bien sûr, mais faut
attention à la Hongrie, on a l'impression de vous parler depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est le.
Il va faire une Puskás qui joue.
C'est l'épouvantail de l'Euro, là, depuis tout à l'heure.
Ah non, je sais pas, je les ai donnés en surprise. Depuis, ça fait 15 jours, 3 semaines.
Ah oui, à ce moment-là. Mais surprise de. C'est-à-dire, en quart.
Lionel a une vision.
Surprise de. Ils arrivent sur le terrain.
C'est la surprise. Je sais pas, on verra, Daniel.
Ouais, Yacine, vas-y, t'as pas fini.
J'ai terminé en disant qu'en fait, on savait que l'ogre de ce groupe, ça allait être l'Allemagne. Maintenant, j'attends vraiment mieux de la part des joueurs et du coach pour des matchs comme la Suisse et la Hongrie où c'était un peu plus abordable sur le papier, je précise. Et puis voilà, après, heureusement qu'il y a les supporters qui sauvent un peu l'ambiance.
Ils sont fantastiques.
Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais apparemment, ça part de 200 000 en Allemagne.
Ah, moi j'ai entendu 100 000 à Munich.
100 000, n'abusons pas.
Bah, déjà 100 000, c'est un truc de fou.
Après, les Écossais, ils aiment bien des fois exagérer. 100 000 à Munich, mais apparemment, ouais, mais 200 000 en Allemagne.
100 000, c'est déjà énorme.
Non, mais déjà, alors, enfin, je sais pas le terrain, mais c'est assez intéressant. En fait, quel est le process? Yacine et Julien, c'est-à-dire qu'en fait, si c'est des bandes de potes qui viennent, là on a vu quand même globalement que les gars en kilt à poil sous le kilt,
en train
de boire de la bière.
Autour
quoi.
De la sélection, c'est une semaine de vacances.
C'est genre very bad trip écossais quoi.
Quand toi tu poses tes vacances pour aller au Daghestan pendant une semaine, bah, eux c'est autour de la sélection.
Pourquoi pas.
Ouais, ils font toi. Après, c'est très écossais parce que moi à côté, tu vois, je supporte le Celtic quand il se déplace en Ligue des Champions ou en Europa. Ça se déplace en bande. Ça veut dire que vraiment, ça y va par milliers et par milliers. Maintenant, le problème, c'est que on sait qu'il y a tellement de supporters écossais qui ont sympathisé avec les Allemands. Ça se trouve, il y a même des Allemands qui ont mis des tenues écossaises, tu vois, pour tenir.
Ah, donc, ils ont changé les kilts.
Voilà, exactement. Donc, on ne sait pas si tous les 100 000 sont que des Écossais. Mais non, mais ils sont formidables. Et franchement, pour moi, ça me rappelle un peu les Irlandais quand ils sont venus en 2016 en France. Ça avait créé une bonne ambiance.
Là, on a vu, c'est vrai, des superbes images et tout à Munich. Et pourquoi l'Écossais en déplacement est pacifique et sympa, et pourquoi l'Anglais aime se battre?
C'est culturel.
C'est pas le même peuple.
C'est
pas
le même peuple. C'est des mentalités différentes. Gilbert, t'as dit que c'était pareil.
L'Écossais, il est moins vu comme un envahisseur. L'Anglais, tu vois, il a toujours cette image, mais après. Mais bizarrement, tu vois, quand il y avait l'Euro 2020, quand il y avait Écosse-Angleterre, ça s'est très bien passé entre les deux supporters, en fait. Tout le monde s'attendait à de la bagarre, mais ça s'est très bien passé. Et l'Écossais, voilà, c'est comme un Irlandais, en fait, sur beaucoup de choses. C'est un mec qui est sympa, qui est cool, t'as un
bon problème,
qui va t'aider. Voilà, c'est un bon copain, quoi.
Ah non, mais alors, Polo, je me permets une précision. Hier, je t'ai pas dit que c'était pareil.
Si, t'as dit que c'était pareil. Bah,
c'est comme si je te disais qu'un ch'ti, c'est pareil qu'un basque.
Non, hier quand tu l'as dit, c'est un peu pourquoi l'Autriche envoie une sélection, ils ont qu'à jouer avec l'Allemagne.
Non, j'ai dit que pour moi l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, ça devrait être une seule équipe nationale, la Grande-Bretagne, et qu'ils auraient la foutre là en fait. D'ailleurs, la preuve, ils ont gagné quoi dans leur histoire, ces nations-là?
Dans ces cas-là, le Portugal jusqu'en 2016 n'avait pas le droit d'exister parce qu'ils n'avaient pas gagné. Ça veut dire quoi?
Mais non, parce que c'est la géopolitique. C'est parce que les Anglais qui ont codifié le football. Les Anglais qui ont codifié le football nous ont imposé à la base quelques trucs comme leur système métrique, par exemple, pour les mesures sur le terrain. Et puis l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord, avec. Tu vois. C'est un seul pays, les gars.
Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que quand même le football écossais, en termes d'Europe, sur Alex Ferguson. Qui a remporté.
Bien sûr, ils ont même gagné des Coupes d'Europe, peut-être plus que la France. J'ai pas le nombre de Coupes d'Europe de Celtic et des Glasgow Rangers.
Celtic, c'est une Champions League, première nation britannique à avoir gagné une Champions League. T'as Aberdeen qui a remporté une Coupe d'Europe avec Ferguson. T'as les Rangers qui ont remporté une Coupe d'Europe. Ça pèse plus lourd que le palmarès européen de la France.
Oui, ça, on sait, oui.
Merci de nous le rappeler, Yacine. Ça fait mal. Mais c'est vrai.
David Moyes qui remporte avec West Ham la Conference League.
Non, mais c'est pas ça. Mais ce que veut dire Gilbert, c'est qu'à partir du moment où le roi est également le prince de Galles, tu vois, on parle.
C'est une incongruité, quoi. C'est comme ça.
C'est juste la résultante de l'histoire et des dominations des uns sur les autres. Hein.
Voilà. Pour lui, il avait l'air
L'Écossais, il a pas dit tiens, ben, l'Anglais, prends-moi tout, quoi.
Bon. Pour lui, il avait deux équipes à un moment aussi. Ouais. Tu vois. Il n'y en a plus qu'une. Oui, t'avais les RDA, tu t'en souviens, Polo.
Il a eu l'Autriche, un peu moins.
Et la Suisse. Julien, rien à rajouter? T'as tout dit, tout ce qu'il fallait dire?
Ouais, voilà. Non, mais on verra le prochain match. Et puis, ils se reprendront. Ce ne sera pas aussi catastrophique que ce soir, ça, c'est sûr.
Salut, Julien. Bonne soirée. Bon rooftop.
Ciao, Juju.
Merci, les gars. À demain.
Yacine, merci. Bon, et on se rappelle pour le prochain match.
Bah, j'espère, et puis je voulais juste faire une petite dédicace. Déjà, merci à vous de m'avoir reçu, et puis grosse dédicace à Scottish Football France et Celtic France, en fait, sur les réseaux sociaux, parce que voilà, c'est les passionnés comme ça, en fait, qui nous font aimer le foot écossais, même si c'est peut-être pas le plus beau, mais en tout cas c'est l'un des plus émouvants, on va dire, au niveau des sensations.
Tu sais que tu as parlé à des top 5 étrangers des Glasgow Rangers, là, quand même.
Comment?
Ouais, non, t'as bien entendu. Glasgow Rangers, Lionel Charbonnier.
Ouais, mais écoute, franchement, on leur a pris le titre cette année. On leur a pris la Scottish Cup. Je suis heureux.
Ah, depuis que je suis parti, ils ont beaucoup de mal, c'est vrai.
Bah, la seule année où ils gagnent le titre, c'est sans supporter, en fait.
Ah. Jérôme Bretagne, il n'est pas dans le top 5 des étrangers de Glasgow Rangers.
Non, je crois qu'ils s'en souviennent même pas.
Ils connaissent pas. Il paraît qu'il est dans le top 5 en caragou de chou, par contre. selon certaines sources. Bon, voilà pour l'Écosse. On vient à l'Allemagne dans quelques secondes. Évaluation, on va parler de Toni Kroos, sa tournée d'adieu également. Des questions tactiques pour Polo sur Direct Studio, parce que l'équipe d'Allemagne a plu à beaucoup de monde, de l'auditeur de l'After ce soir. Donc, on continue le débat dans quelques instants.
RMC jusqu'à minuit 30. L'After Foot, Intégral Euro.
Gilbert Bribois.
23h34, Lionel Charbonnier est là, Daniel Riolo est là, Paulo Breitner est là, on est là jusqu'à minuit 30 tout à l'heure, l'équipe de France au programme, le Mercato, tout le reste de l'actu foot du jour bien sûr, mais pour l'instant on continue sur l'Allemagne. Pas mal de, je l'ai dit Paulo, d'auditeurs de l'After conquis.
Ah bah oui, j'imagine, oui.
Tiens, j'ai même une question tactique de David qui lui dit, Paulo, est-ce que Nagelsmann peut passer en 4-3-3 avec Andrich, Kroos ou Emre Can en point de basse pour positionner Kroos et Gundogan en 8 plus haut. Ce serait intéressant.
Je vois pas en quoi ça pourrait l'être intéressant.
Bah, théoriquement, tu peux le faire, mais ça apporte quoi par rapport au joueur qu'il a choisi ?
Je vois vraiment pas.
Ah bah lui, je pense qu'il estime, sans doute, David, que ça ferait une option un peu plus offensive.
En fait. Ça ne va pas faire une option offensive, parce que l'équipe l'est déjà très offensive et que Toni Kroos...
C'est comme s'il y avait 5 offensifs.
Mais non, rajoute un milieu...
Mais non, parce que Toni Kroos, aujourd'hui, on le voit avec le Real, et forcément, avec l'âge, est beaucoup plus à l'aise en étant un peu plus bas et en orientant le jeu aussi bien par passe courte que par longue, en étant avec le jeu face à lui plus bas. Des fois, il est même à hauteur de ses... Même très souvent à hauteur de ses défenseurs centraux. Donc, Toni Kroos plus haut, c'est terminé. Donc, il ne faut pas aller chercher à inventer quoi que ce soit, à bousculer l'équipe. Il a trouvé ce 4-2-3-1 qui est parfaitement équilibré.
Dans l'animation, ça fait...
Il y a déjà assez de déséquilibres comme ça, parce que si Toni Kroos, il peut lancer évidemment les deux latéraux, Kimmich et Mittelstädt, et évidemment ces milieux de terrain que sont Wirtz et Moussiala. Mais n'oublions pas que s'ils perdent le ballon, il ne reste plus grand monde. Donc moi,
mais tu es obligé de t'articuler avec le milieu. Ça change tout. Je ne vois pas pourquoi...
Non, mais surtout, ce qui est intéressant ce soir, c'est que la domination était tellement importante qu'en fait, c'est une défense à 3, c'est pas une défense à 4.
Absolument.
C'est-à-dire, Toni Kroos joue en position de libéro à l'ancienne.
C'est ça.
Donc, ça m'étonnerait que ça continue quand l'adversité sera plus forte. Et d'ailleurs, encore une fois, le match contre la Hongrie va être passionnant parce qu'ils vont jouer bloc bas en contre et puis avec leurs deux techniciens, Zoboslai et Salai. Je crois que ça va être passionnant parce que ça va ressembler au match contre l'Ukraine qui s'est fini avec un 0-0 avec à la fin de la rencontre des occasions de l'Ukraine parce que les Allemands poussent pour marquer. Il y a un problème d'efficacité, ce qu'on n'a pas vu ce soir. Ils se prennent des contres. Donc tout ça va être passionnant et ça me fait cette rencontre là. Évidemment, tout le monde s'emballe là, mais rappelez-vous la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, le 4-0 remporté lors de la première rencontre par l'Allemagne. Qu'est-ce qui se passe lors de la deuxième rencontre? C'est 0-1 quoi. Donc il faut
c'est une jeune. C'est 2014 où ça démarre sur une raclée contre le Portugal et ça finit bien.
Oui, on peut voir ça comme ça, mais c'était à maturité. Là, cette équipe, elle me semble pas à maturité. Et elle le sera jamais, d'ailleurs, parce qu'après cet Euro, d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'anciens qui vont partir, quoi. Donc là, on est vraiment un peu dans l'inconnu. On est à domicile, très bien, ça a fonctionné contre l'Écosse.
Tu parlais, Polo, justement, d'efficacité, parce que ils étaient, alors, presque traumatisés par ce manque d'efficacité devant. Là, aujourd'hui, c'est du 100% dans les 20 premières, enfin, à 2-0, c'est 100% d'efficacité. Est-ce que maintenant, tout de suite, on dit, ça y est, ça va mieux, ou on a été tellement traumatisés qu'on attend de voir le prochain match quand même?
Ben là, je regarde un peu ce qui se raconte sur les chaînes allemandes. Évidemment, tout le monde s'emballe, mais vous avez dit quelque chose de très juste. C'est que le premier but de Wirtz, c'est surtout une faute du gardien. Et moi, si tu veux, ce genre de rencontre.
Bien. Ouais, mais le mouvement, mais oui. Il est beau, le mouvement.
Oh, mais bien sûr qu'il est beau, le mouvement. Mais les Allemands, ça fait 10 ans qu'il est beau. C'est moi, j'ai pas de soucis sur la qualité technique des Allemands. D'ailleurs, on s'est souvent posé la question.
Le dernier geste,
comment se fait-il Est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes qui, techniquement parlant, sont aussi douées, entre guillemets, que ce qu'on voit avec les équipes allemandes?
Polo, il n'y a pas de problème. Si le seul problème, c'est de dire on avance match par match et on voit quand l'adversité devient plus forte, bah, attendons et puis on verra bien.
Bon, après, c'est
là, pour l'instant, tous les voyants sont ouverts.
Les premiers matchs,
l'équipe, elle est trouvée.
On se méfie un peu. C'est pas, ça te, dit, ça te
personne,
donne pas une indication
personne
définitive.
Est en train de dire ils vont gagner l'Euro. Je voilà. pense que ça confirme que, de toute façon, ils sont dans un top 3. On a encore plein d'équipes à voir, la France, l'Angleterre, les Pays-Bas. Et évidemment que l'adversité sera à un moment ou un autre plus fort. Mais le truc positif, c'est que l'équipe me semble trouvée. Les joueurs sont déjà plutôt en forme. Et puis
et
voilà,
il y a
des joueurs d'expérience, il y a des jeunes, qui sont là dans un tournoi international pour se révéler. Il y a tout ce qu'il faut dans cette équipe.
Et le banc.
Bon, bah voilà. Et il y a le banc. Il y a tout ce qu'il faut maintenant.
Parce que Füllkrug, ça a l'air de rien, c'est 17 sélections, 12 buts.
Hein. Bah, c'est pas mal du tout, surtout. Hein. Quand j'ai vu le but, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, je sais pas pourquoi ça sentait bon la vieille Allemagne.
Ouais, parce qu'on même sa coupe de cheveux, elle sent bon la vieille Allemagne. Tu peux s'aller vu, c'est
Non, mais on parle beaucoup des joueurs du Bayern, mais les joueurs de Dortmund, ils sont là. Hein.
Oui, bien sûr.
Polo, gros plan Toni Kroos.
Il a mis une frappe année 80, Füllkrug.
Est-ce qu'à l'image de Zidane en 2006, il y a une sorte de tournée d'adieu Toni Kroos? Je rappelle quand même qu'au départ, il ne devait pas être là, que Nagelsmann a réussi à le convaincre, qu'il y a eu des discussions tactiques et tout, que finalement, donc, il est venu, qu'il y a eu l'annonce de sa retraite, etc. Donc, comment s'est vécu en Allemagne tournée d'adieu
Il faut bien se rendre compte que à l'image d'un Jürgen Klopp, Toni Kroos est un ambassadeur du football allemand. Les Allemands ne font que de la géopolitique. De toute façon, ça fait quelques années que ça dure. C'est donner une bonne image à l'étranger. Donc Toni Kroos est évidemment.
Ah, ça c'est avec, important pour les Allemands, ça.
Ah mais il y a que de ça. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je me plains que j'aime bien la vieille Allemagne par rapport à celle d'aujourd'hui? Mais parce qu'aujourd'hui, c'est que de la communication. Le Toni Kroos a un palmarès extraordinaire en Ligue des Champions qui valorise l'Allemagne aux yeux des pays étrangers. Mais qu'est-ce que c'est que la Coupe du Monde 2006? C'est les gars, je suis comme chez vous, regardez, c'est formidable ce qu'on fait. C'est ça, la Coupe du Monde 2006. C'est oublier D'accord. notre histoire. Il n'y a que de ça. Jürgen Klopp,
oui,
c'est
l'Allemagne,
quoi?
L'Allemagne positive, quoi. C'est ce que tu veux dire.
Mais oui, c'est ça. Alors ça, c'est les discours que j'ai avec certains sociologues allemands, dont Albrecht, où je lui dis, c'est bien, vous êtes devenu ordinaire comme les autres, quoi. Mais ça, c'est
ouais, toi, tu préférais l'allemand un peu arrogant qui mettait les
taquets. Qu'est-ce qu'il faudrait, en fait?
Non, mais je cherche. C'est toujours avec les mecs qui ont la banane. Regarde, c'est extraordinaire.
Les gars, vous commencez. Les Allemands sont devenus sympas.
Ben oui.
Ça te contrarie peut-être un petit peu, mais.
Mais non, mais moi je regarde, j'adore les incongruités historiques. Donc ça me fait rigoler quand je vois des journaux français qui balançaient sur l'Allemagne à l'époque et qui ensuite écrivent rendez-nous la vieille Allemagne. Si tu veux, ça me fait rigoler.
Ah bon, j'ai vu ça nulle part, moi.
Rendez-nous les Allemands. Regardez, il y a des articles qui sur la presse française sur ces deux trois dernières années.
Ils sont Harald Schumacher en 2024, Polo.
Ben bien sûr. Moi, j'ai aimé le tacle de l'Écossais sur Gundogan.
Oh la vache, oui.
D'ailleurs, Toni Kroos. Blague à part sur ce tacle. Ouais. Dans les commentaires de foot, t'as les commentateurs. Bon, je regardais sur TF1. Margot Tolizara.
TF1.
Ce tacle, t'avais l'impression que. Genre, il s'était fait tronçonner la jambe, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, c'est
il a mis un bon taquet quand même.
D'accord, mais pas bon, c'est le foot, quoi. Je veux dire,
le foot, dans les 16 mètres, tu dois jamais défendre comme ça. On va dire que c'est un sale tacle. Non, c'est quand même un super sale geste.
C'est vraiment pas maîtrisé.
Maintenant, ce genre d'action, c'est comme si c'était devenu, tu vois, un scandale absolu, une agression caractérisée. Limite, tu vas en prison, quoi, tu vois.
Mais,
il y a mis un bon taquet.
Franchement, vous exagérez quand même. Le mec, il met un tacle et tout. Je trouve pas hallucinant que Margoton, Lisa disent que c'est un sale tacle et qu'il doit prendre rouge, quoi.
Oui, c'était un peu surjoué.
Mais pour en revenir à Toni Kroos, c'est intéressant parce que son retour en grâce auprès de la presse allemande et des Allemands tout court est inversement proportionnel à la façon dont on l'a traité après l'échec à l'Euro 2020, enfin 2021. Il était bon à acheter quasiment toute l'équipe, et là il revient parce qu'il est encore à un très bon niveau. D'ailleurs, c'est très intéressant aussi de voir la presse étrangère, notamment espagnole, se dire mais comment vous avez pu vous priver d'un tel joueur? Mais on est dans un pays qui a un palmarès long comme le bras, et dès que tu échoues, ce n'est pas la norme. Et à partir de ce moment-là, la discussion.
Et puis les choses tournent vite, Polo. Moi, je me souviens de la même chose.
Mais on est d'accord.
Avec Flick.
Mais bien sûr. Regarde Mario Götze. Götze, héros évidemment de la Coupe du Monde 2014. Et c'est quoi derrière?
Bah ouais, plus rien.
Bah, voilà, donc c'est mais quand tu as des palmarès comme ça, ton exigence n'est pas la même, aussi dans la débilité, parce que dire que Toni Kroos est bon à jeter à la poubelle, c'est un peu compliqué, mais il y a un moment il faut tourner la page, et il se fait que ça a été un échec, et qu'il y a des gens, dont Nagelsmann, qui se sont dit, bah, ça serait quand même bien que tu reviennes, parce que j'ai pas en stock un mec comme toi.
Dans un instant, Moustapha au 32-16 sera avec nous pour l'évaluation, et ensuite on passera à l'équipe de France.
Ah, le jeu.
Voilà, vous envoyez euro par SMS au 7-32-16. Maintenant, vous avez 5 minutes pour être tiré au sort. Ensuite, éventuellement, pour pouvoir gagner les places pour France-Pologne. Dernier match de poule de l'équipe de France. Bonne chance à tous. Euro par SMS au 7-32-16.
RMC, jusqu'à minuit 30. L'After Foot, intégral euro.
Gilbert Bribois.
Il est 23h48, Lionel Charbonnier, Daniel Riolo sont là et on accueille Moustapha au 32-16 qui est supporter de l'Allemagne. Et Paulo Breitner également est avec nous. Salut Moustapha.
Salut à tous.
Salut bon, Moustapha.
Je te propose de faire l'évaluation ensemble. qui pour toi a été l'homme du match côté allemand?
Bah, je pense que ça fait pas trop débat, c'est Moussiala, hein, de loin. Pour moi, de loin.
Moussiala, ah ouais, d'accord.
De loin carrément. Bon, moi, j'ai trouvé qu'il y avait tellement de mecs qui étaient bons que je trouvais difficile d'en sortir un. Mais Moussiala fait un gros match, c'est vrai, pas de problème.
Je trouve que son enchaînement sur le but, je le trouve magnifique.
D'accord, ça c'est autre chose.
Oui, mais après, j'aurais pu dire aussi Wirtz, mais.
Wirtz,
je sais pas, Moussiala,
pas
il a un truc balle au... Je trouve qu'il a un truc balle au pied. Il est. Je sais pas, pour moi, c'est typiquement un joueur qui est très concentré avec le football. Je dis pas que les autres sont. Attention, je suis pas en train de dire que les autres joueurs autour ne savent pas jouer au ballon ou quoi que ce soit. C'est pas ce que je veux dire. Mais je sais pas, il a un truc en plus. Moi, pour moi, c'est lui. Après, quand je dis de loin, je dis pas que lui, il a 10 et que le deuxième derrière lui a 7 sur 10. Hein.
Mmh. Polo?
Ouais, je sais pas s'il faut sortir un joueur du 11 de départ.
Non, mais lui, il le sort, Moustapha, juste parce qu'il a, il adore l'enchaînement sur son but. C'est vrai que c'est très beau.
Ouais,
non, alors, parce que l'enchaînement, je parle même du joueur en lui-même, en fait. Est-ce qu'il
produit, c'est parce que tes me sont touchés de balle. Oui, non, mais c'est un très beau joueur, pas de problème.
Dans ces conditions, il faut féliciter Havertz qui aurait pu tenter de marquer tout seul et a préféré repasser derrière, quoi.
Oui, très intelligent.
Un très bon ballon, très intelligent.
Mais après, Havertz a eu un rôle un peu plus besogneux, on va dire, par rapport aux deux autres.
Ah bah c'est son rôle qui veut ça, plus, il est un peu dans l'ombre.
Techniquement, donc si on me demande, forcément, je trouve que Moussiala, je l'ai vu plus faire de choses, et c'est logique vu que c'est pas son rôle à Havertz, mais je sais pas, balle au pied, je le trouve plus éblouissant que la plupart des attaquants, et je pense pas être le seul à penser ça.
Il y a un truc à dire peut-être aussi sur la défense centrale Rudiger Jonathan Tah parce que là bon
ce soir ils ont pas été mis à contribution mais tu sens que ça peut être du très solide.
Voilà.
Rudiger quand il faut faire le ménage, il fait le ménage.
Non, et puis là il a un gars à côté de lui, c'est également un rock quoi. Là il y a de la taille, il y a tout je dis pas qu'on a là la meilleure paire de centraux de l'Euro mais il y a dans certaines équipes qui font partie des grosses, il y a des incertitudes. La France par exemple, il y a une incertitude dans la défense centrale.
Mais quand ils trouveront la charnière, ça peut être solide aussi. Ouais,
Polo, bien sûr, mais il y a incertitude en Allemagne aussi, Gilbert. Jonathan Tah a fait la saison de sa vie. C'est quand même un défenseur central qu'on attendait ou qu'on présentait en Allemagne depuis plus de 10 ans, qui a eu besoin quand même de certains thérapeutes, etc., pour qu'il se calme sur le terrain, etc., qui est très inconstant. Rudiger, c'est certes l'actuel meilleur défenseur central du monde, mais j'ai envie de dire de club. Moi, je l'attends toujours une performance en équipe nationale. Donc tout ça, moi, reste extrêmement... J'ai pas envie de dire que c'est fragile, c'est qu'il n'y a pas de match ce soir. Donc pourquoi tirer des conclusions vraiment de ce qu'on voit ce soir? Le talent individuel, on le savait, jamais personne... On pourrait même revenir sur les trois derniers tournois ratés par l'Allemagne, excepté l'Euro 2021 qui quand même sentait un peu la fin de cycle dans tous les sens. Mais les Allemands se font éliminer aussi par les circonstances de jeu, rappelez-vous le but contre le Japon et tout ça, mais quand vous regardez comment on tournait les matchs, ça tournait pas côté allemand alors qu'ils étaient largement plus forts que leurs adversaires.
Exactement.
Donc il faut aussi voir ça. Moi je m'énerve parce que t'as pas à te faire, quand t'es l'Allemagne, tu peux pas te faire sortir deux fois de suite d'un premier tour d'une Coupe du Monde. Mais ce soir, honnêtement, l'Écosse, le match il est plié à la mi-temps, ils sont à 10 en face, et si tu dois faire le grincheux, ce que je vais faire évidemment, c'est pourquoi Andrich se prend un carton jaune, pourquoi Rudiger marque son but contre son camp, Neuer il a pas eu un arrêt
de
90 minutes,
et ça peut relancer la polémique.
Neuer Ter Stegen ou pas,
il y a aucune polémique, il y a aucune polémique en Allemagne par rapport à ça. Il y a, c'est juste, c'est ce qu'on appelle les c'est Bild et tout ça, c'est les comment on appelle ça en français,
les tabloïds.
Mais c'est maintenant, c'est pas les tabloïds, c'est légèrement plus mieux en qualité que les tabloïds. C'est les journaux de boulevard. Je sais pas si ça existe en France, hein, on dit le Boulevard Zeitungen. C'est des journaux qui font parfois des choses très sérieuses, des scoops, et puis alors par contre, dans le populisme, ils savent y aller aussi. Donc à chaque fois, en fait,
Manuel Neuer... C'est un journal qui se vend énormément, Bild, en Allemagne.
Il y a 10, 15 ans ou 20 ans même maintenant, Bild avait fait un truc extraordinaire, parce qu'il est très, très critiqué, ce journal, et il avait offert... pendant une journée, le journal à tous les Allemands. Tous les Allemands. Il avait offert le journal gratuitement. Donc, imagine, c'est un coup. Et il y avait eu un truc comme style 500 000 plaintes. Et 500 000 plaintes, Bild avait communiqué derrière. Et vous vous rendez compte le nombre d'Allemands qu'on est? 500 000, c'est de la rigolade. Non, mais c'est assez extraordinaire ce qu'ils font au niveau de la pub, etc. Mais c'est spécial. Ce qu'on appelle les journaux de boulevard en Allemagne, c'est pas les tabloïds à l'anglaise, etc. Parce que c'est quand même très limite, hein, dans certains cas, y compris au niveau de la vérité et de la justice, etc. Mais en Allemagne, c'est un peu différent. Ça veut pas dire que ça prend la bonne direction, mais c'est comme ça. Et puis t'as le droit de te marrer avec Bild aussi. Parce que quand j'étais en Allemagne et que j'avais tous mes collègues de bureau qui avaient le Bild parce qu'il y a une page au sport, débiles d'ailleurs, que tu regardes et qui sont tous là entre midi et midi 45 pour manger leur casse-croûte et en train d'écouter le truc, c'est un truc assez extraordinaire. Mais voilà, ce soir, cherchons plutôt qu'est-ce qu'on peut améliorer. Moi, je pense que Nagelsmann, il va se poser la question, qu'est-ce que je peux améliorer? Où je dois, ça doit être mieux, parce que quand on jouera le Portugal, je sais pas si c'est la Serbie en huitième, on verra bien, etc. Qu'est-ce qui va se passer contre la Hongrie, les blocs bas, etc. Andrich, il doit pas se prendre le jaune quand tu mènes déjà 2-0 et qu'il y a pas de match. Rudiger, sur la seule occasion, le coup franc, en deuxième mi-temps qui amène le but contre son camp de Rudiger. Jonathan Tah, c'est pas terrible. Rudiger, il marque contre son camp. Manuel Neuer, il a pas eu une occasion. Il doit aller chercher un ballon au fond de ses buts. Voilà, il y a des choses comme ça, 2-3 fautes techniques qui doivent pas arriver à ce niveau-là. Et est-ce qu'on se pose la question de la concurrence entre Havertz et Füllkrug? Est-ce que moi j'aurais bien aimé voir Hunda ce soir, par exemple.
L'entrée de Sané, peut-être que
et Sané, bien sûr. Ouais.
Bien sûr, en question, je n'ai pas aimé du tout.
Je pense qu'on ne sait pas quoi dire quand c'est un match comme ça pour essayer d'aller chercher.
On verra
le deuxième match. Hein.
Ouais. Concluons sur Thomas Müller. Voilà, toujours là. Il rentre son petit quart d'heure.
Il n'a jamais marqué en Euro.
Ouais, c'est une compétition maudite pour lui, c'est un truc de fou.
Polo, tu nous l'avais vendu comme une sorte d'adjoint de terrain.
C'est l'ambianceur. Ouais, voilà. C'est ça, c'est l'ambianceur, en fait, c'est celui. Et c'est très intéressant dans sa compo. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que c'est pas une équipe, elle sera jamais à maturité, cette équipe-là, parce que, évidemment, après l'Euro, Müller, Kroos et compagnie, je pense, voire Manuel Neuer, on sait pas, hein, même s'il a prolongé jusqu'en 2026 au Bayern, on sait pas ce qui va se passer à certains postes. Ils vont être là pour encadrer les jeunes. Et moi, je suis très intéressé, mais on le saura pas sur l'instant. On le saura dans quelques mois, lorsqu'il y aura des vrais reportages ou des véritables interviews. En fonction de comment ça fonctionne pour la National Mannschaft, de savoir comment va fonctionner et comment les anciens, on parle à Wirtz et parle à Moussiala, parce que je le pense vraiment, l'Allemagne ne sera pas championne du monde si ce duo ne fonctionne pas. C'est très jeune. C'est ça qui me plaît, moi, dans cette équipe d'Allemagne.
C'est très important, par contre, Polo, ce que tu dis, parce que le passage de flambeau se fait comme ça. L'ADN d'une sélection se fait par les anciens qui vont parler aux gamins, entre guillemets, et leur dire voilà, et les gamins vont s'imprégner de ça, vont devenir à leur tour des anciens. Et c'est comme ça que ça a fonctionné avec la Mannschaft. Et c'est ce que, justement, on n'avait pas fait. Après 98, enfin après 2000, où on a viré tous les champions du monde, champions d'Europe, et on s'est dit, on repart sur quelque chose de neuf. Et il a fallu que rappeler des anciens pour se dire, attention, j'ai fait une connerie, je voulais toutes les vieilles sorcières de 98-2000, on les dégage, et les autres vont arriver.
Tu parles de l'équipe de France, là?
Oui, de l'équipe de France. Mais parce qu'il n'y avait pas eu.
C'est qui les vieilles sorcières? Tu parles de Deschamps, là?
Bah, de nous, non, mais les 98-2000. D'accord. Parce que.
En 2002, il en restait quelques-uns, quand même.
Pas beaucoup.
Bah, Djorkaeff, Henry, Zidane.
Pas beaucoup, hein. Non, ils ont été rappelés. Ils ont été rappelés, Barthez, tout ça, ils ont été rappelés. Après. Ah
oui, après, ils sont revenus. Et c'était en 2006.
Parce qu'au départ,
Oui, mais tu parles de 2006.
En 2002. 2006, non, je parle de 2006.
Ah, d'accord.
de 2006 où là il y a un trait qui est tiré. Non, mais ce que dit Polo, c'est hyper important de garder les anciens pour justement dire aux jeunes, voilà comment ça se passe, voilà dans le vestiaire, chacun reste à sa place et chacun connaît sa place. Et après, c'est comme ça que tu vas de l'avant.
Merci Polo.
Merci à vous.
On se retrouve très vite. Hein. Je pense que tu viens de nous parler de l'Autriche.
Ah bah oui.
Évidemment.
L'Allemagne, on joue quand ? Mercredi ?
Ou avant ? Mardi, je crois.
Mardi.
Non, c'est pas mardi contre l'Angleterre.
Mardi.
Allez, bonne fin de soirée.
Salut Polo.
Salut Polo.
Je remercie Moustapha également au 32-16. Dans un instant, ce sera l'équipe de France.
C'est bien mercredi. Le 19 Hongrie.
Mercredi, Allemagne-Hongrie, exactement. Mmh. Et ensuite, dimanche prochain, Suisse-Allemagne. Dans un instant, l'équipe de France et le reste de l'actu foot du jour, on est là pendant encore 30 minutes avant la libre antenne qui suivra jusqu'à 1h30 du matin. Et puis tiens, j'en profite, c'est vrai que c'est la fête des pères dimanche.
Dimanche.
Ah bon ? Ouais. Et ben nous, on a des cadeaux de fête des pères.
On a beaucoup de trucs. Hein.
Ouais.
Tu viens me faire un cadeau ?
Si tu veux.
Non, il y a la revue de l'After que tu peux aller acheter. Il y a le cahier de vacances de l'After que tu peux aller acheter.
Revue de l'After sur l'After.media, moins de 4€ par mois l'abonnement. Excellent cadeau de cette fête.
Et pour les vacances.
Vous n'avez pas des oursins dans les poches, vous, un petit peu ?
Non, mais Lionel, on va te l'offrir. Ouais, t'inquiète pas.
Et le cahier déjà, vous êtes saigné, le premier, vous me l'avez offert.
Très bien. Gardez, Jean-Claude. Cahier de vacances.
Ça sera sûrement le dernier.
Cahier de vacances pour avoir les petits jeux.
Sûrement le dernier, je vais le garder, je dors avec et tout. Je vois vos deux têtes avant de m'endormir. Ça me fait du bien.
Sinon, il y a aussi le théâtre, salle Playel en octobre.
Ah oui, j'entends.
On a plein de cadeaux de fête des pères. Dans un instant, l'équipe de France au programme.
RMC jusqu'à 12h30, l'afterfoot, intégral euro,
Gilbert Bribois.
Il est 13h02, encore une petite demi-heure d'after avant la libre antenne qui arrivera ensuite avec Thibaut Giangrande, Oussem Loussaïev, toute l'équipe. Pour l'instant, Lionel Charbonnier est là, Daniel Riolo est là. On va parler de l'équipe de France, les gars, avec l'actualité du jour, évidemment, et nos reporters sur place qui suivent les Bleus et qui nous font savoir qu'Mbappé va mieux. Et qui s'est entraîné.
Il a plus Bobo au dos ?
Bah, ça va mieux. Voilà. Raisonnablement penser qu'il va évidemment jouer.
Il y a des chances, oui.
Le match face,
donc face à l'Autriche. Donc, dans un schéma qui est de plus en plus Thuram à gauche, Mbappé dans l'axe.
Et Saliba en défense centrale. Aujourd'hui, il y a eu travail Saliba ou Upamecano.
Saliba, c'est normal. On sait tous que c'est le meilleur. Que Mbappé joue en pointe, donc ça veut dire que c'est acté dans la tête de Deschamps qu'il ne le sent plus capable de jouer sur un côté, donc ça veut dire qu'on acte le fait que Mbappé soit moins en forme, à tel point qu'il faut en plus mettre Thuram à gauche, alors qu'on sait que ça n'est pas du tout son poste.
Côté gauche, Thuram, c'est pas le top.
Et que Thuram n'est pas extraordinaire dans ce rôle-là, mais qu'il va simplement lui demander de se sacrifier, en gros en défendant beaucoup. Voilà un petit peu la stratégie des Bleus, c'est en gros faire tout pour que Mbappé soit le plus proche possible de la surface pour marquer, parce qu'en gros, bah, c'est lui qui est capable d'enfiler des buts. Donc il y a une vraie stratégie, que je trouve une stratégie un petit peu par défaut. Quand on lit et qu'on analyse la situation, c'est une stratégie par défaut qui prend acte que Mbappé n'est plus aussi fort qu'avant, et que pour en tirer un profit maximal, il faille le mettre tout en haut, et on va... Il n'y a pas un mec qui pourrait jouer sur le côté gauche, à la limite, plutôt que d'aller envoyer un Thuram qui est incapable de passer sur un côté, qui n'est pas un joueur de côté du tout. Je trouve que c'est bizarre.
Bon, attendons de voir quand même, parce que c'est vrai que c'est assez louche. Lionel, t'en dis quoi, toi ?
Moi, dans l'axe, j'aime pas. J'aime pas Mbappé dans l'axe. Maintenant,
lui non plus, il n'aime pas dans l'axe.
Je le préfère sur le côté gauche. Alors, côté gauche, tout est relatif. En tout cas, excentré, puis revenir se placer un peu plus axial à côté d'un vrai numéro 9, c'est pour moi son vrai rôle. Après, il y avait une articulation en équipe de France quand il était à gauche, et notamment des milieux qui travaillaient pour lui, parce bien que sûr. Quand il était en équipe de France, il ne défendait pas il revenait jamais dans les 16 mètres. Hein. Mmh. Il y avait tout le temps une articulation à gauche qui faisait que son mec était pris soit par Rabiot, soit par un milieu côté gauche.
Mais pourquoi il envoie pas Rabiot sur le côté? Mais il va quand même être Rabiot sur le côté.
Je ne sais pas, mais je demande à voir. Après,
offensivement,
j'ai la ferme. Je pense vraiment que c'est comme ça qu'il va être employé dans l'axe au Real.
Par Ancelotti. Ah oui, mais ça, nous, ça ne regarde pas.
Ouais, mais je pense.
Nous, on a fait le débat l'autre soir. C'est qu'à un moment dans une carrière, les mecs qui jouent sur le côté, ils n'y arrivent plus et il faut les recentrer. Bah Mbappé, visiblement, il a plus la forme pour jouer sur le côté.
Après, sur le côté, il faut garder cette pointe de vitesse et tout. Je trouve que ça, ouais, son explosivité, Mbappé prend de l'âge, il est de moins en moins explosif. Et bah, bien évidemment, c'était sa force première.
Donc on disait l'autre jour.
Mais lui-même l'a dit, hein. Lui-même l'a dit. Il a dit, il va falloir que je me réinvente dans mon jeu. Il le sait déjà. Hein.
Mais on est d'accord que jusqu'à preuve du contraire, il ne nous a pas prouvé qu'il était bon dans ce poste-là. On
l'a. Côté gauche.
Non, dans l'axe.
Ah, dans l'axe. Non, non, non.
Il ne
non,
nous l'a pas prouvé. On ne le sait pas.
Bon, confirmation ce week-end hein, pour la compo de lundi. Et puis Tchouaméni s'est entraîné, a commencé à recourir là. Donc bon, voilà. Il ne va pas jouer évidemment tout de suite, mais. Ça veut dire qu'il est sur la voie du retour. Maintenant, bon, c'est un peu bizarre parce que tu as emmené un gars qui ne pourra peut-être pas jouer l'Euro, on verra.
Je pense que s'ils l'ont emmené, c'est parce qu'ils avaient des certitudes. Alors, il ne va peut-être pas jouer le premier match, mais deuxième match, il va être prêt. Ils vont compter dessus pour le. J'espère les huitièmes, les quarts.
Donc ça veut dire que Deschamps on le voit comme un titulaire indiscutable en fait.
Je pense.
Sinon il l'aurait pas pris.
Je pense.
Ce qui peut être un débat parce que est-ce qu'il mérite un statut de titulaire incontestable, Tchouaméni vu sa saison, ses derniers matchs avec l'équipe de France. Je sais pas. Camavinga par exemple il est très bien. Rabiot ça tourne. Bon on verra.
Tu veux dire quoi en fait?
Bon Tchouaméni c'est un mystère en fait.
Pourquoi?
Il est pas prêt. En fait, pourquoi tu le prends?
C'est pour les matchs. Pour
les moi,
matchs
je l'interprète futurs. De s'il le prend, ça veut dire que dès qu'il sera prêt, il le met.
Oui.
Ah oui.
Oui.
Mais est-ce que ça, c'est sportivement, c'est justifié?
Je sais pas. Ça te rappelle pas une histoire? Pour beaucoup moins que ça, on a mis Benzema dehors.
Bah avec Benzema.
On l'a mis dehors. Hein non mais moi, dans l'année ou dans les 18 mois qui viennent, je serai devant un tribunal et devant un juge pour avoir justement remis en cause. Ce qu'il a fait avec Benzema, alors que ce n'est juste qu'un débat foot, tu vois.
Oui.
Voilà. Mais bon, visiblement, il faut s'en expliquer devant la justice. Bref, je trouve que ce qui se passe avec Tchouaméni montre bien qu'il y avait un problème Benzema et qu'il voulait s'en débarrasser.
Oui, et qu'il a utilisé le prétexte de la blessure.
Bien sûr, puisque tous les médecins avaient dit dès le 8e, ça peut jouer, mais pour plus de sécurité, car là, on ne sait pas pour Tchouaméni.
Bah non.
C'est quand? Pour être sûr qu'il soit réellement au top. Donc voilà, donc bon, écoute.
Pour moi, pas celui-là, le
prochain.
Il
va pas partir dans la nuit.
Non. A priori, non.
Et je précise que si je parle de cette histoire, je n'ai absolument rien contre Tchouaméni, qui est un type génial et aucun problème avec lui. C'est juste pour comparer les deux situations. Quand tu veux réellement garder un joueur, tu gardes un joueur. Surtout quand c'est un attaquant capable de mettre des buts et tout, même si c'est pour jouer, vu que tu as 26 joueurs à l'époque. Même si c'est pour jouer trois quarts d'heure dans une éventuelle finale, ça vaut toujours le coup un attaquant. Surtout quand c'est un attaquant de classe mondiale. Ça vaut plus le coup qu'un milieu de terrain qui, a priori, va pas te faire des diffs de ouf. Hein. Parce que imagine que Tchouaméni puisse pas jouer et qu'il soit rétabli pour les demi.
Non, non, si tu arrives en demi, c'est parce que.
Oui, si tu arrives en demi, c'est à ton équipe.
C'est ce que j'allais dire. Oui. Mais si tu arrives en demi, Lionel, des grands tournois, t'en as fait.
Non, non.
Généralement, quand tu arrives en demi, c'est que ton équipe, elle tourne. Tu vas pas changer un milieu.
Un
attaquant pourrait rentrer en deuxième mi-temps, mais un milieu de terrain, globalement, il va pas péter un collectif.
Tchouaméni, Daniel, je connais bien le staff médical. S'il le garde, c'est parce qu'il est capable de jouer dans les. Pas le prochain match, mais pas celui-là qui vient, mais celui d'après.
Bon, on verra.
Il va rentrer, il va pas jouer titulaire dès le départ. Il va rentrer, il va faire des brides de match pour s'installer petit à petit titulaire. Je le vois gros comme ça, je peux me tromper.
Alors, il y a un sujet en équipe de France qui revient lors de chaque conférence de presse, parce que les journalistes posent la question. Hein. Ce sont les élections à venir. Et donc, il y a une volonté de la part des médias qui interrogent les Bleus de savoir ce que les joueurs veulent faire ou pensent. On va écouter, on ne l'a pas fait hier soir, on n'a pas eu le temps.
Je crois surtout que la volonté des journalistes, c'est d'avoir une phrase.
Ah, tu penses qu'une punchline en mode Zidane à l'époque, qui s'était positionné.
C'est d'avoir une phrase pour faire un sujet là-dessus et tout. Parce que, tu vois, on va entendre le son, mais. Au fond, ce que je vais dire après, c'est que je ne comprends pas ce qu'ils cherchent, en fait. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent, finalement.
Les journalistes qui posent la question ?
Exactement, ce qu'ils attendent. Donc, passe l'extrait et après, j'explique ce que je pense de cette situation. Parce que j'ai également entendu des journalistes, notamment sur la chaîne L'Équipe, s'emballer et s'exprimer sur le sujet. Mais moi, je dis que quand on veut s'exprimer sur ce genre de sujet, soit on se prend en main complètement et on ose dire ce qu'on a à dire.
C'est-à-dire
soit on ferme sa gueule.
Pour qui on vote, tu veux
exactement.
Dire
sinon, on ferme sa gueule. Si c'est juste pour venir donner une leçon et pour pas avoir les couilles d'aller au bout du truc, bah écoute, je trouve que ça sert à rien du tout. Tu vois, si en fait tu attends, moi j'ai aucun problème pour que les joueurs prennent position et disent, puisque visiblement les journalistes n'attendent que ça, il faut aller. Parce que si c'est pour dire allez voter, ok, allez voter quoi en fait? Allez voter quoi?
Toi, tu veux dire que on leur pose la question pour avoir la réponse, faites barrage au RN.
Exactement. Donc,
comme Zidane l'avait fait, deuxième tour, Chirac-Le Pen, rappelez-vous, à l'époque, c'était une rare prise de position.
Soit les mecs vont au bout du truc et lui disent. Excuse-moi, Lionel. Soit les mecs vont au bout du truc et disent, OK, hein, mais quand Dembélé, qui est le seul, je crois, à avoir accepté de répondre, a dit, bon, il faut aller voter. Mais il faut aller voter quoi? Faut faire quoi? Parce que si c'est. Ne pas voter RN, ce que je peux parfaitement comprendre.
C'est parce qu'il répond à la question.
Non, mais d'accord,
il veut pas se prononcer.
Je vais au bout de mon raisonnement. Si c'est pour dire, je ne veux pas, mais va au bout du truc, tu vas dire aux gens d'aller voter pour l'autre extrême ou comment ça va se passer? On va l'assumer complètement, ça? Même les journalistes qui,
non.
Prenez vos couilles et dites réellement les choses. Parce que moi, je veux bien.
Je pense que c'est
moi,
pas
je veux bien
que
c'est un extrême, mais moi, je repousse les deux. Tout le monde le sait, je me suis jamais caché. Ça,
surtout
moi,
pendant un euro.
Non, mais c'est pour ça que moi, je voulais pas en parler. On en a pas parlé ici. Mais nous, quand on dit les choses, on va au bout. On se cache pas complètement. Moi, je repousse les deux extrêmes. Voilà, tout le monde le sait. De toute façon, tout le monde sait à peu près ce que je vote, hein. Je me suis jamais caché de rien. Mais on va demander aux joueurs de foot d'aller dire quoi? D'aller voter pour l'autre parti extrême, pour la gauche radicale?
Non, mais quand la question l'avait posée, la question n'est pas.
C'est pour ça que je pose la question.
Si tu sous-entendais.
Si, je pense que c'est
pas. Qu'est-ce qu'ils veulent dire?
C'est des questions quand même.
Parce que pour le coup, ça me ferait réellement marrer d'entendre un joueur de foot qui oserait dire qu'il va aller voter pour la gauche radicale. Parce que alors là, je pense que là, je peux me rouler par terre pour l'incohérence du truc, je peux me rouler par terre pendant 3 jours.
Vrai,
hein.
Le vrai.
Parce que les mecs qui vivent à l'étranger et tout, ils vont venir après, ici pour.
Moi, ce que j'aimerais bien savoir, Daniel,
pour voir les réformes qui se préparent. Au cas où.
Ce que j'aimerais bien savoir, c'est vont-ils voter vraiment, en fait?
Exactement. Ils en ont rien à cirer, ils vont venir donner la leçon. Faites-ci ou faites ça.
Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce que je pense, c'est que la question ne devrait pas exister, surtout pendant l'euro. Qu'ils aillent voir le mec, quand il est chez lui ou en vacances ou.
L'équipe de France, c'est la représentation nationale, tu vois. Donc, c'est pas illogique de.
Pas pour la politique.
T'es dans la société, tu vois. Tu vis pas en marge. Donc,
pour moi, c'est pas un sujet, là.
Moi, je n'aurais.
Pas pendant l'euro, je suis pas d'accord.
Lionel, pendant l'euro, pas l'euro, je respecte ton avis et tout, mais. Quand bien même, je n'empêcherai jamais. Si un joueur de foot, exactement comme pendant la Coupe du Monde, on leur demandait tout, si le mec se sent de dire quelque chose, qu'il a envie de le dire, j'ai aucun problème. Tout le monde est libre d'exprimer, mais qu'il aille.
Moi, ça me dérange.
Non, mais peu importe. Il est libre et tout, mais qu'ils disent allez voter, ça veut rien dire.
C'est parce qu'il veut, éviter la question, il a pas envie. Okay. Et je suis sûr et
mais
certain
donc,
que
les journalistes
ils
continuent.
Ont préparé les joueurs en disant vous direz ça, on va vous poser cette question.
Et les journalistes continuent. Et les journalistes continuent à poser la question. Bon, voilà.
Il est là le souci.
Tout.
Pour moi, le souci il est là.
Bon, du coup, ça vous intéresse d'écouter les réponses quand même?
Ouais, vas-y.
Bon, on va écouter d'abord Dembélé et ensuite Giroud. Ousmane Dembélé.
C'est pas que je veux pas me positionner, mais je pense que la situation en France, la sonnette d'alarme, je pense qu'elle a été, lancée et qu'il faut, je pense, se mobiliser pour aller voter tous ensemble. Je regardais le journal de 13h il y a pas longtemps, qu'un Français sur deux ne vote pas et je pense qu'il faut se mobiliser, aller tous voter. Les législatives vont arriver, la FFF va mettre en place quelque chose pour que on aille voter par procuration. Voilà, je pense qu'il faut se mobiliser, aller voter.
Ok, d'accord. Moi, aller voter quoi? Ça veut rien dire. Ce qu'il dit.
Non, moi en creux, je comprends qu'il dit faut faire barrage contre le RN. Moi, je comprends ça.
Ben, évidemment que j'ai compris ça.
On comprend tous ça.
Ok, d'accord. Mais
dire, toi, ce que tu reproches, c'est qu'il dit on peut pas les vrais mots pour
mais
le
la
dire.
La suite, c'est quoi? Parce que moi, j'ai aucun problème pour faire barrage au RN, mais pour moi, en face, il y a un bloc.
Il y a aussi un vote intermédiaire qui est possible. Je sais pas.
Voilà, mais alors qu'on le dise alors.
Mais là, mais après,
qu'on
lui,
le dise.
Et
moi, je le dis et je l'assume. Moi, je le dis et je l'assume. Moi, je le dis et je l'assume.
Chacun est libre.
Puisque visiblement, il y a des journalistes qui arrivent à l'antenne là sur l'équipe. Oh, la situation est grave. On est en panique. Non. Moi, la panique, c'est les deux extrêmes. Moi, mon angoisse depuis une semaine, c'est ça.
Giroud est intervenu.
Moi, mon angoisse, c'est ça. C'est de voir NPA et les filles, ces gens-là, en face du RN. Voilà.
On va voir s'il est sur la même ligne.
Et c'est la situation de la France pétée entre deux blocs comme ça qui me fait peur, moi.
On va voir si Giroud est sur la même ligne.
Bref, aucune incidence sur notre préparation, clairement. Si j'ai un conseil à donner aux Français, c'est d'aller voter. C'est le plus important parce que un taux d'abstention de presque 50%, c'est pas normal. Et je vais pas donner de précision sur mes tendances politiques ou quoi que ce soit. Je suis là pour en parler football et voilà, c'est tout.
Voilà. Là, là, ça sent la réponse préparée avec l'attaché de presse.
Ah, complet. Ouais. Et donc, ça veut rien dire.
Allez, dans un instant, Ludovic sera avec nous pour parler des Bleus et puis le reste de l'actu du jour, notamment du mercato à suivre. Il nous reste un petit quart d'heure ensemble avant la libre antenne. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h30. L'After Foot Intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Minuit 16, Lionel Charbonnier, Daniel Riolo. Avant de parler mercato, on va conclure sur les Bleus avec Ludovic au 32-16 qui est avec nous. Salut Ludo.
Salut Daniel, salut Gilbert, salut Lionel.
Salut Ludo.
Tout à l'heure, on parlait un peu tactique, là. On parlait de l'attaque, notamment, de la vraisemblance d'Mbappé en neuf. On a aussi évoqué Saliba, qui devrait jouer, donc maintenant, ça se confirme de jour en jour, contre l'Autriche. Quel est ton degré global de confiance, toi, pour l'équipe de France ?
Bah, honnêtement, je suis pas hyper confiant. Quand tu vois que le trio devant, il est encore incertain avec un Mbappé où on sait pas s'il va dans l'axe ou à gauche, l'éternel débat comme le PSG. Avec un Dembélé également qui est pas hyper décisif et un Thuram ou un Giroud, ou a priori, ce qu'on me dit, c'est plutôt Thuram qui sera titulaire à gauche. Effectivement, la confiance, elle est pas au plus haut niveau. J'ai vraiment des gros doutes sur l'équipe de France. Ça manque de créativité. En dehors de Griezmann, c'est très léger au milieu de terrain. Non, pour le coup, je vois pas une équipe de France forcément favorite, avec des joueurs tous en méforme. Et en dehors d'Mbappé, on va pas se le dire, mais il n'y a pas vraiment de buteur. Et c'est ça qui est un peu gênant, où une équipe de France qui est effectivement... il manque de joueurs offensifs décisifs. Et c'est vrai que quand on reprend les années précédentes avec des joueurs fantasmes, mais qui étaient plus décisifs comme un Jérémy Ménez, bah forcément...
Hein t'es allé le chercher où ce nom?
Je vais pas te le cacher, Daniel. J'adore Jérémy Ménez.
Non mais d'accord, mais en équipe de France, il a jamais existé, quoi.
Et Daniel, je te rappelle que l'Euro 2012 en Ukraine...
Ah oui, avec Laurent Blanc.
Non mais d'accord, mais il a jamais existé en équipe de France. C'est pas un joueur qui a existé en bleu, quoi.
Daniel, t'es dur.
Ludo, il a placé son Ménez. T'aimes bien Ménez. Voilà.
Tu l'aimes bien. Enfin, il a pas. Ménez, j'appelle pas ça une existence en bleu, quoi. Tu vois. C'est...
Il a fait quand même des choses. Mais pour revenir plus sur le
24
trio,
sélections, quand même, Ménez.
J'ai de grands doutes et je me suis même en train de me dire qu'un Barcola a peut-être quelque chose à faire avec cette équipe. Donc c'est pour te dire, Daniel. Hein. Pourtant, je ne porte pas dans mon cœur le
écoute,
Barcola.
À vrai dire, si c'est pour faire jouer Thuram dans cette position-là. La question peut se poser effectivement de mettre au moins un vrai spécialiste du côté.
Barcola.
Oui.
C'est le seul qui paraît en forme sur la préparation. Là. J'ai Mbappé à l'entraînement, apparemment il n'en touche plus une. J'ai l'impression que physiquement et l'année qu'il a subie avec le Paris Saint-Germain, bah, ça va être compliqué de s'en mettre sur 3 semaines en forme. Franchement, honnêtement, ça va être très très compliqué.
Dans le premier match, au-delà, moi je sais pas, pessimiste, optimiste, on verra. Les Bleus, de toute façon, nous habituent toujours quand même à être, au moment où ça démarre, assez compétitif. Mais le premier match sera un révélateur parce que l'Autriche, je trouve que c'est vraiment une belle sélection. Il est évident que un résultat, un nul ou une défaite encore pire, effectivement, jetterait un gros trouble. Même si tu sais que tu peux toujours te qualifier parce que la troisième place, que si cela. Mais on a vraiment besoin de savoir où en sont les Bleus, qui sur les dernières sorties, moi carrément, je vais presque dire tout 2024, je les ai pas trouvés dingues. Donc j'ai besoin d'être rassuré lundi soir, incontestablement.
Bah, aujourd'hui, cite-moi un match référent sur les 3 derniers mois du trio. Potentiellement, si on parle d'Embélé, Thuram et Mbappé, il n'y a aucune performance notable sur les 3 derniers mois.
Mais c'est sûr, Mbappé fait pas une bonne saison, Thuram fait une saison j'allais préciser
moins avec l'équipe de France.
Non mais en fait ce que je voulais dire c'est dans une équipe qui joue avec un système qu'il ne retrouve pas ou il est pas à l'aise en tout cas.
C'est ça.
Coman est toujours blessé, Dembélé c'est pas mal mais on connaît ses qualités, ses défauts. Griezmann le temps passe. Oui, il y a rien qui est méga rassurant maintenant.
Et Kamavinga qui est même pas annoncé titulaire.
Non mais attendez les gars, avant chaque grande compète en fait, on est la même chose. Avant chaque grande compète, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de petit pessimisme comme
non,
ça.
Non, je suis pas, je suis pas sûr que l'année.
Pour reprendre une expression politique, un pessimisme d'atmosphère.
Coupe du monde, tu crois que c'était comme ça?
Bah j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est pareil.
Pardon, mais à une semaine de la Coupe du Monde, quand tu sais que l'attaque, tu peux retrouver Benzema devant et tout. Non, à partir du moment où il s'est blessé, qu'il a commencé à avoir les histoires, et encore même pas, parce que franchement, les Bleus ont tout de suite été rassurants, parce qu'ils ont fait un très bon premier match à la Coupe du Monde. Non, j'ai pas souvenir que t'es un début de compète avec autant de mecs en méforme et avec autant de questions sur comment ça va jouer offensivement.
C'est un peu spécial, il n'y a pas eu de préparation, il n'y a eu que dalle, t'as enchaîné direct, donc t'as même pas
attention,
eu...
Faut pas, et d'ailleurs, Euro 2021, c'est France favorite à mort. Là, d'ailleurs, c'est encore pour tout le monde top 3, top 4. Non, je ne comprends pas ce que tu dis sur le
souvenir là. Mais...
Non.
Bref, faut pas non plus tirer des plans comme ça sur, ne serait-ce qu'en regardant le dernier match contre le Canada, parce que la préparation, ils ont pris ce qu'il fallait pour aller loin. Et donc, contre le Canada, il n'y avait pas de jus, il n'y avait rien du tout. Moi, ce que j'attends de voir, au-delà du résultat, enfin, bien sûr, le résultat, je ne m'attends pas à une défaite, bien évidemment. Un nul, ça m'embêterait. Mais c'est l'articulation, comment Mbappé va être effectivement...
Ça, c'est exploité. Le point central, ça.
Ben ouais, c'est ça, c'est savoir qu'il soit devant, OK, qu'on le mette en pointe comme ça, mais... Quelle va être sa marge de manœuvre? Est-ce qu'il va rester en pointe? Est-ce qu'il va pas décaler pendant que Griezmann va venir prendre? On va jouer avec un faux neuf en ayant Mbappé en faux neuf et Griezmann qui serait plus axial. C'est fort possible. Ça peut arriver aussi, ça. Après, sur le côté gauche, moi, personnellement, si tu me demandes, si tu mets effectivement Mbappé en neuf, moi, je mets l'attaque Barcola, Mbappé, Dembélé, l'attaque parisienne.
Oui, bah c'est ce que c'était pour cela que militait aussi Florent Gautreau l'autre jour. Ludovic, merci.
Gilbert, ouais. Est-ce que je peux faire une dédicace juste
bien
à
sûr.
Mon ami Benoît
bien
que
sûr.
J'aime.
Très bien.
Juste ça. Merci beaucoup les gars, je vous adore et encore bon courage pour l'Euro et je vous aime.
J'ai dit la même chose à Flo l'autre soir. Cette attaque-là, on l'a pas beaucoup vue cette année, mine de rien. En Coupe d'Europe, même dans le dernier match contre Dortmund, c'est pas l'attaque qu'il a alignée.
Ah non, mais
c'est pas une attaque qui a beaucoup joué ensemble, qui a des gros repères ensemble.
Je suis d'accord. Mais pour moi, c'est la plus offensive, c'est la plus percutante. Même si les automatismes, ça a parfaitement raison. C'est pas avec le PSG qui se les sont fait.
Ah ouais.
Qui se sont procurés des automatismes, mais je pense quand même que dans la percussion à gauche, Barcola, ça apporte beaucoup. Mbappé, il a besoin de mecs percutants, que ce soit Dembélé ou Barcola, pour pouvoir finir. Moi, je verrai, s'il est en pointe, je verrai plus ça personnellement.
Le reste de l'actu du jour, les gars. Déjà, vous dire qu'en Allemagne, on est assez inquiet du match Serbie-Angleterre. Qui sera l'un des matchs les plus surveillés du premier tour de l'Euro, c'est dimanche. Hein. Plein de matchs sous très haute surveillance. On attend près de 35 000 Anglais à Gelsenkirchen, 10 000 Serbes. Voilà, on a eu le problème du hooligan, notamment. Interdiction de vente d'alcool, ce qui, pour les Allemands, est un crime de lèse-majesté.
Ouais, j'ai vu qu'ils ont le droit de vendre de la bière dans le stade.
Ah bon, en Allemagne, même au championnat, tu peux y aller. Bière de soif, comme dirait Polo, avec modération. Et, enfin voilà, je vous préviens pour ce match-là, match à surveiller. Et puis un petit mot des Espagnols quand même, parce que vous savez qu'en Espagne, la loi oblige les clubs à libérer les joueurs nationaux pour les événements type Jeux Olympiques. Du coup, dans la liste des Jeux Olympiques, il y a Nico Williams, Baena, Lamine Yamal et Fermín López. Et ben, ils vont faire l'Euro et les Jeux. Et les clubs n'ont pas le choix.
Attends, la loi espagnole.
La loi espagnole. Donc là, ça aurait pu être le cas en France. Les Espagnols ont légiféré. Ils ont dit, nous, Jeux Olympiques, c'est un événement. Ça date pas de maintenant, hein, c'est il y a quelques années. C'est un événement important pour nous, national. Donc, par la loi, les clubs ne peuvent pas dire non. T'es
donc
convoqué.
Ça veut dire que le gouvernement. Bah,
donc,
a priori,
dans ces cas-là,
le gouvernement a priorité.
Il a Mbappé de ne pas y aller.
Ah bah, Mbappé, il peut lui dire de ne pas y aller. Alors que les Espagnols, il ne peut pas. Ouais, c'est comme ça.
Bah, que pour les Espagnols.
Que pour les Espagnols.
Oui, ça veut dire que le gouvernement espagnol a priorité sur la FIFA, dans le football.
En quelque sorte, on peut le dire comme
ça.
Ouais.
Alors que normalement, il n'y a pas.
Normalement,
y a,
pas, tu ne peux pas.
Oui, normalement. Mais après, normalement, fois, je dis que c'est mytho. Hein, son ingérence, c'est totalement.
Après, ça vaut aussi pour tous les autres sports. Hein, ça vaut pour le basket, pour les autres sports co.
Oui, mais le foot. Bah, pour les autres sports co, il y a
pas ce problème. Le canoë kayak en Espagne, il n'est pas.
Il n'y a que pour le foot où la FIFA dit ouais. Bah, si ce n'est pas des dates FIFA, vous faites ce que vous voulez.
Les jeux ne sont pas les dates FIFA, je le rappelle. Mercato, ça y est, donc le jeune russe Matiev Safonov sera bien à Paris la saison prochaine. Alors lui, il n'est pas encore arrivé, il y a déjà une histoire. Donc en fait, il payait pas la pension alimentaire à son ex-femme.
Mais j'ai eu à payer, non ?
Son ex-femme a porté plainte. Il était interdit de sortir du territoire. Donc il y a eu quand même un flou. Il peut pas venir.
Je trouve ça hallucinant d'aller chercher ce gardien russe. J'ai pas bien compris. Comme s'il y avait vraiment besoin d'un russe dans l'effectif, sachant
c'est un très bon
la situation
gardien.
Politique
bon
globale.
Il est vraiment
très bon ce gardien.
Bah, il est très bon, franchement. Il n'est pas meilleur au pied que Donnarumma.
C'est pour ça, voilà. Donc après, il arrive avec des casseroles
et
énormes.
C'est un très bon gardien.
Il arrive
je l'avais
avec
vu
des casseroles et tout. Mais enfin, sa casserole, elle est pas, tu vois, c'est pas net, quoi. T'as le droit de prendre des gens un peu nets, quand même.
À Lyon, on s'intéresse à Jesper Lindström, joueur de Naples qui a fait une saison très moyenne, milieu offensif danois, il a 24 ans. On parle d'option d'achat, de prêt avec option d'achat. Prêt avec option d'achat de 20 millions si les négociations aboutissent. Donc voilà, c'est la presse danoise.
Et l'OM a son entraîneur L'OM a son entraîneur ou ils achètent les joueurs une fois que l'entraîneur sera là?
Pendant ce temps-là, Naples veut recruter Lukaku. C'est Antonio Conte qui veut Lukaku.
Ah bah, Conte, il veut, s'il n'a pas Lukaku, il n'est pas content.
Du coup, il fait quoi d'Osimhen?
Il veut Lukaku.
Il va au PSG.
Et puis, je voulais quand même, par ailleurs.
Il y a déjà deux avancées entre PSG, je te signale.
Vous donner une autre info importante tout de même à Lyon. Prise de position forte là de Laurent Prudhomme, le DG lyonnais qui a décidé de radier tous les membres du groupe de la Mezza Lyon, groupe lié à l'extrême droite qui s'est notamment mal illustré lors du fameux match annulé à Marseille en octobre dernier. On y était, Daniel. Il dit: je ne les considère pas comme des supporters et pas comme des ultras. Ce sont des gens qui utilisent le sport pour de la violence. On va faire une interdiction commerciale. Donc il les vire.
Eh ben ça, il y a peu de présidents qui font ce genre de choses.
Écoute,
c'est plutôt courageux. Ouais,
exactement. Donc ça date d'hier.
Absolument, c'est très bien.
Et puis pour finir, je vous donne des nouvelles de Daniel Kennedy. Vous vous souvenez de Daniel Kennedy?
Oh, bien sûr, Daniel Kennedy, arrière gauche du PSG, voyons.
Non.
Ah, il a fait sa petite carrière, Kennedy.
Il a joué quand?
Benfica, PSG.
96-97. Voilà. Il a débuté à Benfica, il joue à Paris. Ouais. Sauf que il a un problème. C'est que.
Il jouait pas des masses, il n'était pas titulaire tout le temps, mais bon.
Ben justement, il s'est un peu mis à jouer après sa carrière et il a perdu tout son argent.
Non.
Il est ruiné.
Aïe.
Et aujourd'hui, il a fait sa première journée comme chauffeur Uber à Lisbonne.
Ouf.
Et il dit: voilà, c'est ma nouvelle vie, j'ai tout perdu.
Ouais, malheureusement.
Dur, hein. Ouais. Voilà,
attention, le jeu.
Le destin de Daniel Kennedy. La Libre Antenne est là, Oussem Loussaïev, Thibaut Jean-Grande, qui eux sont toujours au top de leur carrière, comme Daniel Kennedy à l'époque.
Oh, tu peux nous voir faire Uber aussi.
Vous êtes que deux, il n'y a pas Nico?
Non, il a fait le match avant.
D'accord.
Et t'es bronzé, toi.
Vous allez faire quoi à deux, là?
Tu vas rester, toi, déjà.
Ça, ça veut dire qu'il flippe.
Il a changé. Tu nous appelles sur la route.
Ah, tu rentres au CERF? Je vous écoute, faites-moi rigoler que je m'endorme pas.
Tu rentres au CERF?
Ah bah ouais.
Vas-y, appelle-nous.
Je vais vous écouter.
La Libre Antenne jusqu'à 1h30 du matin comme tous les soirs pendant l'Euro. C'est tout de suite.
Ciao.
RMC, l'After Foot Intégral Euro.